Radio Campus 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde!
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve!
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis médecin.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Moi non plus.
Et ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà arrivée.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
dans les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B.
Allez, top!
C'est dans le mètre.
Là, on le mettre.
On ne savait pas tout de gauche, c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend mais qu'on n'est pas rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine.
Et puis tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
La révolution par exemple, on sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallais le tapis avec ton sang.
C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UMP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus pas rouges, hein ?
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de rouge. Et puis, un petit...
30 ans après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs. Et puis, à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je vais forcément toucher, les jamais tomber en panne de pause. Je dis tant que vous ne pas.
Aujourd'hui, mercredi 23 mars 2022, c'est la Saint-Vatanguerre. Saint-Vatanguerre est le saint patron de ceux qui jamais n'hésitent, en cas de guerre juste ou de conflit légitime, ou même en cas d'opération humanitaire, ceux qui jamais n'hésitent à se lancer corps et âme dans la bagarre. Et à envoyer les autres au casse-pipe, hein, ben, faut pas déconner non plus. Ah, la guerre, grosse malheur. Surtout si elle a été attendue tant et tant par l'élite de la nation française. Cette élite qui s'ennuie ferme depuis des années. Des lustres qu'il n'y a pas un vrai conflit digne d'intérêt. Depuis les bombardements de l'OTAN sur la Yougoslavie, les boys qui ont envahi, qui ont rétabli l'Irak, qui ont rétabli la démocratie en Irak, bof, depuis... pas grand-chose. Rien de très excitant de par le monde. Le FAMAS qui reste mou malgré les efforts soutenus d'Ariel. Et le génie militaire du 16e arrondissement qui reste très largement sous-exploité. L'ennui, quoi. La mélancolie du dimanche soir avant un triste lundi matin au taf. Grisaille des petits conflits de merde qui te laissent une chemise blanche immaculée comme au premier jour. Pff, trop nul. Non mais franchement, c'est pas avec les petites invasions au Panama, les coups d'état mesquins en Haïti, les enlèvements par-ci, les interventions par-là, un petit coup chez les Rastaquers latinos, un autre chez les négroïdes du Sahel ou bien chez les bicolibiens, qui pourtant là-bas, ça avait bien commencé. Mais c'est pas ça qui va faire jaillir à la face du monde le sens de la stratégie de l'intelligentsia hexagonale, ben non. Ce qu'il leur faut aux liquettes amidonnées françaises, c'est du grandiose, de la révolution en couleur, du conflit mondial, de la possibilité d'un dérapage nucléaire. l'Ukraine, mon pote, les Ruskov, et enfin, entre blancs, entre blancos, entre whites, et ouais. Parce qu'il en a besoin, ça, va-t-en-guerre. C'est vital pour les Bernard Raphaël Henri, Lévi Glückstoven, quand la fièvre guerrière le saisit. La vraie, hein, pas la guerre contre le Covid. Quand la fièvre le saisit, Saint-Va-t-en-guerre chausse alors ses mocassins de combat et vole de studio, de radio en plateau télé pour exposer des plans de bataille infaillibles dès qu'ils réussissent à tous les coups. Et là, bah, il n'y a aucune chance qu'il se trompe. Il a juste à réciter les communiqués de l'OTAN. Et ainsi, Saint Va-t-en-guerre fut-il canonisé parce qu'il sait qu'il est du bon côté, du côté du bien. Tout comme il fut du côté des valeureux Moudjahidine afghans face aux barbares soviétiques. Tout comme il fut du côté des valeureux rebelles modérés d'Al-Nosra face à la tyrannie sanguinaire de Bachar. Et tout comme aujourd'hui, il est aux côtés du bataillon Azov, ces valeureux nazis face... C'est quoi ce bazar? Coupe! Aujourd'hui, mercredi 23 mars, le soleil s'est levé. Quand il guerroyait, même les feuilles tremblaient. Il se couche, poilu, barbu, vêtu de peau de bête. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur campusil.com, le DAB+, et le saucisse pois chiche, quand il n'y a pas trop de vent. Ce soir, on vous propose un entretien avec Aymeric Monville des éditions Delga. Et juste avant ça, la chronique de notre camarade Saïd Bouamama, Le Monde vu d'en bas. Et c'est l'heure de le mettre.
We'll be right back. Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. L'actualité de cette semaine, ayant encore été largement dominée par la guerre en Ukraine, nous lui consacrerons de nouveau notre chronique, comme nous l'avons fait pour les précédentes. Cette fois-ci, nous aborderons la question de la facture de la guerre pour les peuples de l'Union européenne. Combien et à qui coûtera la guerre d'Ukraine ? On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels, disait Anatole France à propos de la Première Guerre mondiale. Il soulignait ainsi que les peuples ne gagnent jamais rien à la guerre, contrairement aux industriels de l'armement et des industries entrant dans la fabrication des armes. Comme toutes les autres guerres, celle d'Ukraine a d'abord un coût humain qui sera payé par les peuples russes et ukrainiens qu'il est impossible d'évaluer pour l'instant, compte tenu de l'incertitude sur la durée du conflit. Elle a aussi un coût économique, constitué de plusieurs éléments pour les peuples de ces deux pays. Coût des dépenses militaires, destruction des bâtiments et d'infrastructures pour l'Ukraine, coût des sanctions économiques pour le peuple russe, etc. Elle a enfin un coût pour les peuples des pays de l'OTAN, engagés dans un soutien en armes à l'Ukraine. Les discours des va-t-en-guerre qui fleurissent dans nos médias occultent cette dimension de la guerre ou l'euphémisent. Nous ne disposons pas d'informations exhaustives sur ces dépenses militaires, mais celles rendues publiques suffisent à prendre la mesure du montant de la facture qui sera tôt ou tard, directement ou indirectement, présentée aux peuples des pays de l'OTAN. La première information rendue publique, à peine 2 jours après le déclenchement de la guerre, est la décision états-unienne d'accorder une nouvelle aide militaire à l'Ukraine d'un montant de 350 millions de dollars. Ce montant s'ajoute aux 60 millions de dollars décidés l'automne dernier et aux 200 millions de dollars actés en décembre dernier. Le chef de la diplomatie états-unienne, Anthony Blinken, explique ainsi, je cite, « Cela porte à plus d'un milliard de dollars l'aide sécuritaire totale que les États-Unis ont accordée à l'Ukraine au cours de l'année écoulée. » Le lendemain de cette déclaration états-unienne, l'Union européenne lui emboîtait le pas en annonçant une aide à l'Ukraine qui est, pour la première fois de l'histoire de cette institution, destinée à financer des armes létales et des avions de combat. Le chef de la diplomatie européenne annonce ainsi le 28 février une enveloppe d'un montant de 450 millions d'euros et l'explique comme suit, je cite, « Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kuleba a dit avoir besoin d'avions que les Ukrainiens peuvent piloter. Certains États membres disposent de ce genre d'avions et nous allons les fournir avec d'autres armements nécessaires à une guerre. » Fin de citation. Cette aide européenne s'ajoute à celle déjà décidée par de nombreux gouvernements européens. Le président du Conseil européen, Charles Michel, déclare ainsi à la presse, je cite, « Une vingtaine d'États européens vont dédier des moyens à l'Ukraine en addition des moyens européens. » Fin de citation. Il est bien sûr difficile d'évaluer le montant de ces nouvelles dépenses militaires compte tenu du peu d'informations rendues publiques. Ainsi, par exemple, la Belgique décrit son aide comme suit dans une déclaration publique de son Premier ministre le 26 février. L'Ukraine a demandé à la Belgique du carburant en quantité pour approvisionner ses troupes. Notre pays a accepté et fournira 3800 tonnes de fuel. La Belgique fournira aussi 2000 mitrailleuses à l'armée ukrainienne. Une analyse plus approfondie de demandes continue. Fin de citation. L'Allemagne, pour sa part, a annoncé la livraison à l'Ukraine de 10 000 tonnes de carburant avec 14 blindés, 1000 lance-roquettes, anti-chars, 500 missiles sol-air Stinger et 9 obusiers. La France, quant à elle, a décidé d'envoyer, je cite, « des équipements défensifs, casques, gilets pare-balles et équipements de déminage, du carburant avec, en plus, 33 tonnes de matériel d'aide humanitaire ». Enfin, l'annonce par l'Allemagne d'une augmentation exceptionnelle de son budget de la défense de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée ne pourrait être que la série d'une longue série touchant l'ensemble des pays de l'OTAN. Le professeur de politique économique à Sciences Po, Jean Pisani-Ferry, avance les prévisions suivantes. Je cite « L'annonce par l'Allemagne d'une augmentation du budget de la défense sera suivie par des initiatives parallèles dans les autres pays. Dans le périmètre de l'Union européenne, il faudra sans doute 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires à court terme cette année et au bas mot 70 milliards d'euros, un demi-point du PIB, à moyen terme. » Fin de citation. Ces différentes sommes seront directement ou indirectement imputées au budget des États, c'est-à-dire payées par le contribuable à plus ou moins long terme. Dans le même temps, sera déployé un discours sur la crise de la dette publique, au nom de laquelle on conclura la nécessité d'une politique d'austérité pour nos écoles, nos hôpitaux et plus largement pour l'ensemble des services publics. Le coût de la guerre ne se limite pas aux dépenses militaires. Il faut en effet ajouter à celles-ci les conséquences économiques de la guerre. Plusieurs secteurs économiques sont d'ores et déjà impactés. Le premier est celui de la production de blé, avec une Ukraine se situant à la quatrième place des exportateurs de blé et la Russie se situant à la première place. On ne voit pas comment l'économie mondiale pourrait échapper à ce que les économistes appellent un choc de l'offre négatif, c'est-à-dire une baisse soudaine de l'offre se traduisant par une hausse brusque des prix. Ces deux pays représentent en effet un tiers des exportations de blé tendre dans le monde. D'ores et déjà, le prix du blé sur le marché international atteint des sommets jamais égalés. Au 9 mars, la hausse du prix de cette céréale était déjà de 70%, explique Éric Thirouin, président de l'Association Générale des Producteurs de Blé, en illustrant comme suit la situation. Je cite « Aujourd'hui, sur la place de marché Euronext, la tonne de blé vendue à Rouen se négocie à 412 euros et celle vendue à La Palisse à 440 euros. C'est du délire. » Fin de citation. L'Ukraine et la Russie représentent également 20% des exportations mondiales de maïs et 30% de celles de l'orge, deux céréales utilisées de manière importante pour l'alimentation du bétail. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles annonce ainsi des hausses conséquentes sur le poulet, le porc, les produits laitiers, la farine, etc. L'Ukraine et la Russie représentent enfin 78% des exportations d'huile de tournesol, rappelle Émilie Maillère, directrice commerciale de l'IRI, un institut analysant l'évolution des marchés des produits de grande consommation. Tentant une évaluation de l'impact sur le prix de ce produit, elle explique, je cite, « qu'un taux d'inflation à deux chiffres sur ce produit en particulier est à envisager. Un impact inflationniste tout aussi important est à prévoir pour le gaz et le pétrole. Chacun d'entre nous a déjà pu le constater en faisant le plein de sa voiture. La Russie représente en effet 40% des importations de gaz européen, ce qui représente 19% de la consommation totale. Certes, la dépendance énergétique n'est pas identique pour tous les pays européens. Le gaz russe représente, selon un document du Sénat français, je cite, 80% du gaz importé par la Pologne, 65% pour l'Autriche, 37% pour l'Allemagne et 24% pour la France, et seulement 6% pour la Belgique. L'indicateur néerlandais appelé Total Transfer Facility, qui est la référence du marché européen du gaz, est en hausse constante depuis le début de la guerre. Il atteignait 345 euros le mégawatt-heure le 7 mars, alors qu'il était à 214 euros seulement le 4 et à 76 le 22. La situation est de même nature, quoiqu'avec un impact moindre pour le pétrole, avec 25% des importations de pétrole de l'Union européenne venant de Russie. Les conséquences seront bien entendu de même nature. Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, déclare ainsi le 9 mars, je cite, « la crise énergétique actuelle, marquée par une flambée des prix, est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973. Bien entendu, tous ces coûts ne seront pas pris sur le profit des grandes entreprises, en application de la fausse maxime libérale, ne pas prendre aux entreprises pour ne pas affaiblir l'investissement. En réalité, une part grandissante de ces profits n'est pas affectée à l'investissement, mais redistribuée en dividendes pour les actionnaires. Il reste en conséquence deux voies pour absorber cette hausse des prix prévisible, l'augmentation de la dette publique et la baisse du pouvoir d'achat. Dans les deux cas, le poids du coût de la dette reposera sur les peuples. La directrice de l'IRI, ci-dessus citée, évalue comme suit l'impact global moyen pour les produits de consommation courante. Je cite « Avant même le début du conflit, nous prévoyons une inflation d'une moyenne de 3% sur l'ensemble des prix des produits de grande consommation, notamment à cause de la hausse des prix du transport, du gaz et de l'électricité, mais aussi des matières premières à cause des aléas climatiques. L'impact additionnel de cette guerre sur les prix va dépendre de sa gravité et de sa durée, mais on envisage une inflation de l'ordre de 5%. Certains produits devraient être plus touchés que d'autres. » Fin de citation. Faisant une analyse globale du coût de cette guerre pour l'Union européenne, l'économiste Jean Pisani-Ferry, ci-dessus cité, annonce, je cite, « La guerre en Europe coûtera 175 millions d'euros. Ces diverses sommes astronomiques sont à mettre en comparaison avec l'ampleur des besoins sociaux non satisfaits. » Le mouvement de la paix français présente comme suit quelques comparaisons. Un avion Rafale correspond au coût de deux hôpitaux. Un missile M51 à celui du salaire annuel brut de 7500 infirmières ou de 150 scanners corps entiers. Un porte-avions à celui d'un an de nourriture pour 20 millions de réfugiés. L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture évalue pour sa part le coût de l'éradication totale de la faim dans le monde à 6 milliards de dollars, soit à peine une année des dépenses prévues par la loi de programmation militaire de la seule France. Ces quelques chiffres suffisent à attester que la seule voie rationnelle pour les peuples est la paix en Ukraine, qui suppose une politique de sécurité collective pour tous les États de la région, que ce pays ne soit pas membre d'aucune alliance militaire, qu'ils soient neutres et dénucléarisés. Autrement dit, le souhaitable pour les peuples est à l'exact opposé des multiples discours va-t-en-guerre qui fleurissent actuellement dans les champs politiques et médiatiques européens.
C'est une bonne guerre, c'est un déluge, c'est une révolte, c'est une grande foire aux coltes pour flinguer les caches-misères, c'est une corde de mille lieues pour pendre les gars du milieu, c'est un poison lent et violent sur tous les billets de 500. Ce qu'il faudrait, c'est une bombe, c'est une tête nucléaire, un éclair qui foudroie la terre et va brûler toutes les tombes, un séisme sous Monaco, voir si le prince est toujours prince quand le rocher déploie ses pinces et lui fait bouffer son chapeau. C'est un titan, c'est un démon, c'est un fléau. C'est la grande parade du chaos pour faire taire les politicos. C'est un canon dedans leur bouche qui tire chaque fois que la langue fourche. Une chambre à air dans leur derrière qui se gonfle chaque fois qu'il manque pas d'air. Ce qu'il faudrait, c'est un tyran, c'est une force, c'est un coup de sang. C'est un Père Noël délétère qui offre deux vrais revolvers. C'est une pute pleine de MST pour se faire les grands PDG. C'est une tumeur au fond des couilles de ceux qui ont toujours la trouille. Ce qu'il faudrait, c'est un cerveau, c'est un Big Bang à l'envers, c'est une nuit sans interdit pour tuer tous les paradis. Et dans ce massacre étonnant, les premiers qui perdront leur sang sont ceux qui mangent sur notre dos les miettes de leur futur chaos. Ce qu'il leur faudra, c'est un prophète et la meilleure des paraboles pour pas qu'on les noie dans le pétrole, qu'on y craque l'allumette. Ce qu'il leur faudra, c'est un prophète avec une sacrée auréole qui nous résonne, qui nous cajole pour pas qu'on leur coupe la tête. Ce qu'il leur faudra, c'est un miracle avec le gratin du cénacle, Dieu en personne avec son fils pour pas qu'on y aille à coups de vis. Ce qu'il leur faudra, c'est un miracle et je prie pour qu'il n'ait pas lieu, car la vengeance sera un spectacle où ils vont tous fermer les yeux.
Radio Campus.
C'est quand même pas mal la politique, hein.
Ah, c'est pas inintéressant, hein.
Ah oui.
106,6.
Il est fréquent d'entendre et de lire dans nos principaux médias que l'opinion publique mondiale condamnerait de manière unanime la Russie et considérerait celle-ci comme la seule responsable de la situation. Une chronique de l'agence France-Presse datée du 24 février commence ainsi, je cite, « Les réactions à travers le monde sont quasiment unanimes après le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine ». Fin de citation. Sous des formes multiples, cette affirmation mensongère est reprise depuis dans de très nombreux commentaires et analyses de cette guerre. La chronique citée ci-dessus porte par exemple comme titre « Les réactions à travers le monde », mais son contenu est consacré quasi exclusivement aux réactions de responsables politiques des différents pays de l'OTAN. La réduction mensongère de la réalité est ici double. D'une part, l'opinion publique est réduite à la position des dirigeants politiques. D'autre part, l'opinion publique mondiale est réduite à l'opinion publique occidentale. Cette double réduction occulte à la fois qu'une partie de l'opinion publique occidentale ne partage pas les discours des va-t-en-guerre et que la très grande majorité des pays du monde, que ce soit au niveau de leurs dirigeants ou de leur peuple, ne partage pas non plus ceci. Regardons de plus près ces réactions internationales et leur signification politique. Le vote à l'ONU visant à condamner l'entrée des troupes russes en Ukraine a mis en évidence que 35 d'entre eux se sont abstenus, avec parmi eux la Chine, l'Inde, le Venezuela, la Bolivie et près d'une vingtaine de pays africains. Au total, ce sont 52 pays sur 193 qui ont soit voté contre cette résolution, soit se sont abstenus, soit n'ont pas participé au vote. Un regard sur les votes des pays de chaque continent met en exergue pour sa part que ce sont les pays les plus importants en superficie, en population et en impact géostratégique et emplois économiques qui ont refusé d'entrer dans la logique de guerre souhaitée par l'OTAN. En Asie, non seulement les deux pays les plus peuplés du monde, la Chine et l'Inde, en font partie, mais également le Pakistan, l'Iran et le Bangladesh. En Afrique, on trouve de même des pays aussi importants que l'Afrique du Sud, l'Algérie ou l'Angola. En Amérique latine, le Venezuela ou la Bolivie ont adopté la même position. Compte tenu des multiples moyens de pression économique et politique dont disposent les pays de l'OTAN, ce vote est significatif d'un changement profond dans l'ordre international qui est entièrement passé sous silence par la plupart des analyses médiatiques de la guerre en Ukraine. Le philosophe et militant politique grec Stathis Kouvelakis analyse comme suit ses résultats dans un texte publié le 7 mars dernier. Je cite « Se dessine ainsi une coupure nord-sud qu'avant de condamner ou de disqualifier, il convient de comprendre car les guerres sont avant tout révélatrices des fractures qui traversent le monde et annonciatrices de celles à venir. » Son confrère, le philosophe italien Mesradra Sandro, confirme cette hypothèse dans son analyse de la situation publiée le 14 mars. Je cite « Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est ni plus ni moins que l'ordre mondial. L'attitude de l'Inde peut donc être interprétée comme le symptôme d'un changement de ses stratégies qui devient significatif si l'on considère les positions prises par des pays comme la Turquie, Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. » Fin de citation. Les quatre pays évoqués ci-dessus ont voté la résolution exigeant, je cite, que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine, mais ont refusé de s'associer aux sanctions prises par les pays de l'OTAN contre la Russie. Ils sont très loin d'être les seuls. Si la quasi-totalité des États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine appellent à un cessez-le-feu, à la désescalade et à des négociations, quasiment aucun, y compris parmi les alliés les plus fidèles des États-Unis et de l'OTAN, ne s'est associé aux sanctions prises contre la Russie. Jusqu'à présent, nous n'avons évoqué que les positions des États. Si nous tournons le regard vers les opinions populaires, l'unanimité mondiale proclamée par de nombreux éditorialistes est démentie encore plus nettement. Bien sûr, ces opinions sont partagées, mais de nombreux indices, soulignant le refus ou pour le moins la méfiance vis-à-vis de la lecture médiatique dominante de la guerre dans les pays de l'OTAN. Ces indices concernent également les opinions publiques des pays de l'OTAN. Si la propagande de guerre quotidienne n'est pas sans effet, elle ne parvient pas à formater entièrement les opinions publiques occidentales. Caricaturés comme des complotistes ou pro-Poutine, les refus de la guerre et de la lecture dominante de celle-ci s'expriment fortement dans les quartiers et classes populaires, ainsi que sur les réseaux sociaux. Que ce soit en raison du coût de la guerre et des conséquences attendues sur le pouvoir d'achat des classes populaires, par méfiance vis-à-vis du gouvernement touché par une crise de légitimité, qu'a mis en évidence la gestion de la pandémie ou le mouvement des Gilets jaunes, ou encore du bilan tiré des guerres en Afghanistan, en Irak ou au Sahel, une partie non négligeable de l'opinion publique refuse le discours officiel sur cette guerre. Bien entendu, cette partie de l'opinion publique n'a pas voix au chapitre dans nos grands médias. La situation est encore plus nette dans les opinions publiques des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui est résumée comme suit par Stathis Kouvelakis. Dans les pays du Sud global, en Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabo-musulman, dans une grande partie de l'Asie, le soutien à la Russie, ou du moins une forme de bienveillance à son égard, sont nettement plus répandus, tant dans les opinions publiques que dans certains secteurs de la gauche. Fin de citation. La chercheuse en sciences politiques de l'Université de Lille, Sonia Le Gourielec, confirme ce constat pour l'Afrique et est même plus affirmative dans son analyse datée du 14 mars dernier. Je cite « Il est intéressant de suivre la distinction qui pourrait s'opérer entre le positionnement diplomatique prudent des diplomaties et les opinions publiques plus affirmées et nettement pro-russes. » Abordant les raisons de ce soutien populaire à la Russie, elle évoque les suivantes, je cite, « équivalence morale entre l'intervention russe et celle de l'OTAN, anti-impérialisme fort, anti-américanisme, politique de l'humiliation, sentiment que l'histoire est écrite par les vainqueurs », fin de citation. Cette opinion publique populaire des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine est considérée comme négligeable par nos grands médias qui n'en font pas mention afin d'accréditer l'idée d'une condamnation mondiale unanime. Ces réactions et positions populaires dominantes dans la majorité des peuples du monde peuvent certes être critiquées, mais les règles minimum de la déontologie journalistique exigent qu'elles soient au moins mentionnées. Les terres, comme le font la plupart des grands titres, revient à diffuser une vision eurocentrique de la situation, revenant à considérer que le monde s'arrête aux frontières de l'Europe ou de l'Occident et à ses intérêts économiques et géopolitiques. En témoigne, par exemple, un article du journal Le Soir, daté du 27 février, intitulé « Sanctions contre la Russie, le monde hausse le ton ». suite à la guerre en Ukraine. En dépit de ce titre, l'article qui cite successivement Joseph Borrell, Ursula von der Leyen pour l'Union européenne et les déclarations du G7 ne prend pas la peine de citer un seul représentant des pays du Sud. Pour cet article, le monde s'arrête donc aux frontières des pays du G7. Ce n'est pas par ignorance qu'une partie importante de l'opinion populaire dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine refuse les sanctions contre la Russie ou même soutiennent cette dernière, mais par expérience. Cette expérience est de nouveau considérée comme négligeable par la plupart des grands médias. Les rares médias évoquant les positions de compréhension de la Russie d'une part et les positions pro-russes d'autre part, les analysent à partir de grilles de lecture culturalistes en termes d'attirance pour un homme fort, de ressentiment contre l'Occident ou encore de sensibilité à la propagande russe. De telles analyses oublient le bilan des guerres des dernières décennies tirées par les peuples des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. L'Irak et la Syrie détruites, l'Afghanistan subissant deux décennies de guerre, le Soudan éclaté en deux États, la Libye durablement mise en chaos, le Sahel régulièrement endeuillé, le Yémen bombardé quotidiennement, etc. C'est sur la base de cette expérience que se forgent les opinions publiques populaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La question des origines et causes de la guerre est perçue à partir de cette expérience concrète. Ces peuples n'ont pas oublié les médias mensonges mis en avant pour justifier ces guerres et ont l'impression que l'histoire se renouvelle. Les faux charniers de Tin Soara, les couveuses débranchées par Saddam Hussein au Koweït et les armes de destruction massive en Irak, les massacres de civils de Kadhafi, etc. Toute cette propagande de guerre, démentie par la suite, est la base matérielle des opinions publiques des peuples des pays du Sud. On peut certes ne pas partager ses opinions, mais elles ne peuvent pas être considérées comme négligeables ou inconsistantes. Le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe et de l'Occident, et l'humanité, comme l'opinion publique non plus.
Arme atomique, espion germanique, prince héritier, complice du KGB, Bourville Richard Burton, le gros général Patton, sont dans les films de guerre. Vietnam. Des chars qui roulent sur des gens, chinoiseries sur grand écran. THX, t'es à chier. Colons anglais et portugais, film italien sur des bandits mexicains. De beaux officiers allemands, tirailleurs sénégalais, entente cordiale et internationale. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. On dirait de la bande dessinée. On voit les prix des bras arrachés. Ils nous font quand même coucou derrière les barbelés. Pas rancunier les gars, merci, je m'en rappellerai. C'est même pas un mythe. Creuser un souterrain en 5 minutes et à la main. Traverser les rivières, nager sans faire, bouger de l'eau, Bombe à retardement qui pète pile au bon moment. Bah
hommes cintrés et les femmes lieutenants, le sur la queue pour la scène du nu. Tu sais l'amour sur la plage, après 8 heures de lance-flamme, ça détend. C'était le bon temps. Aujourd'hui double cacheton, pour ceux qui tombent du pont. Le charnier c'est beaucoup mieux payé, c'est devenu ça les films de guerre. C'est devenu ça les films de guerre, c'est ce que je préfère, les films de guerre.
Bombe à retardement qui pète pile au bon moment.
Radio Campus Lille, 106,6. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
C'est l'heure de mettre sur Radio Campus. Nous sommes avec Aymeric Monville. Aymeric Monville, il dirige des éditions qu'on connaît très bien et que vous, nos auditeurs, connaissez très bien finalement, du fait que nous relayons très régulièrement les auteurs, les œuvres que Aymeric publie aux éditions Delga. Donc, c'est par exemple des publications de Georges Gastaud, de Victor Dédage, enfin des copains radiophoniques, on va dire. Aymeric Monville, bonsoir d'abord.
Oui, bonsoir, merci pour votre invitation, ça me fait très plaisir de vous entendre, et puis parce que je vous connais bien évidemment.
C'est gentil. vous savez qu'on a plus d'antenne là. Mais on a écouté sur internet, hein. L'antenne a été brisée par la tempête et donc on en profite, tiens, pour refaire un appel à nos auditeurs, à la générosité pour nous permettre de très vite remonter une antenne. Il suffit d'aller pour cela sur le site campuslille.com où a priori vous nous écoutez, puisque c'est que par ce moyen que vous pouvez nous entendre en ce moment. Aymeric Monville, les éditions Delga, et on a saisi l'opportunité de la sortie d'un ouvrage que tu as rédigé avec le copain Maxime Vivas et avec le camarade Jean-Pierre Page, un bouquin qui s'appelle « Les divagations des anti-chinois en France ». Alors, on va parler donc d'anti-chinois en France. Est-ce que c'était une nécessité pour toi d'évoquer cette question ? Et qu'est-ce que ça dit de la Chine, ce livre ? Et qu'est-ce que ça dit peut-être surtout de la France, en fait ?
Oui, ça explique beaucoup plus. Enfin, ça répond d'abord à un rapport de l'IRSEM, qui était un institut de recherche lié à l'école militaire, et écrit par deux rédacteurs et qui est paru l'année dernière, à la fin de l'année dernière, et qui pointait des influences machiavéliques chinoises en France et qui épinglait un certain nombre d'auteurs comme on pourrait dire, sans le dire exactement, mais comme une sorte d'agent d'influence soumis à cette influence délétère de la Chine. Donc il fallait répondre. J'ai même moi-même été mis en cause en tant qu'éditeur, puisque par deux fois, dans ce rapport, ce rapport qui a été relayé à son de trompe, hein, il faut le dire, par nos médias. Hein, ils ont fait chorus pour considérer que c'était important. Mmh. Et il faut dire qu'il a été écrit, une des deux personnes qui ont écrit ce rapport était membre de l'OTAN, hein, jusqu'avant la rédaction. Soudainement, il n'est plus devenu. Mmh. Et en fait, j'avais publié quelques mois auparavant un livre qui s'appelle « La Chine sans œillère » avec 17 auteurs, mmh, dont, je sais pas, des anciens énarques, des anciens préfets, des anciens ambassadeurs, enfin, pas a priori des gens qui connaissent un petit peu le sujet.
Le sujet, ouais.
Et voilà. Et notamment, qui était dirigé par Maxime Vivas et Jean-Pierre Page. C'est pour ça que je leur ai demandé de refaire une nouvelle, un nouveau livre. On répondait, en fait, aux critiques. Mmh. Alors, ce qu'il faut, et je m'y suis joint aussi, parce que moi, j'estime qu'en tant qu'éditeur, j'étais victime d'une forme d'intimidation néo-macartiste, hein, c'est évidemment de ça qu'il s'agit.
Oui, parce qu'on effectivement, on vous accuse d'être des agents pro-chinois en France, c'est bien ça. Hein.
Oui, ben, en fait, sûrement parce que moi j'avais été reçu à l'ambassade de Chine, bon, j'ai pris une demi-heure, oui, ça avait été très très loin, j'avais pris un thé au jasmin, il était au jasmin. Ouf. Avec l'ambassadeur de Chine, c'était donc j'ai découvert c'était rue Monsieur à Paris, un très beau bâtiment. Mmh. Et voilà, effectivement, on avait parlé de choses et d'autres. Et donc j'apprends après qu'a priori qu'on doit considérer la Chine comme un pays avec lequel nous sommes en guerre et avec lequel on ne doit pas parler. Ça, c'est tout à fait étonnant. Et effectivement, entre-temps, bon, la France envoyait des navires en mer de Chine méridionale, comme on le sait. Et a priori, Personnellement, je me sens patriote, hein, et c'est pas, je rigole pas avec ça. C'est-à-dire, je me sens d'autant plus patriote que je sens que la France est en train d'être dissoute dans l'Union européenne, et ça me plaît pas. Donc, a priori, je plaisante pas véritablement avec ce sujet. Mais effectivement, s'il faut parler de passion patriotique, bah, vis-à-vis des Chinois, je l'éprouverai à partir du moment où je les verrai non loin de nos côtes. Ça me semblerait beaucoup plus logique. Donc voilà, j'estime pas du tout que les Chinois sont un pays avec lequel nous sommes en guerre. Et j'estime que c'est intéressant de voir. Je pense que de toute façon, quiconque a intérêt à étudier le modèle de développement chinois, parce que 700 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté, c'est pas qu'une formule, hein, c'est réel. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ça m'intéresse effectivement en tant que marxiste, parce que je crois pas que les modèles se copient, hein, d'une nation à l'autre. Je crois que de toute façon, je crois que c'est Maurice Thorez, hein, qui parlait de différentes voies au socialisme. Hein, chacun a la sienne, chacun développe le socialisme comme il l'entend. Mais effectivement, voir comment les Chinois ont développé leur socialisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant que Mao Tse-tung ne prenne le pouvoir en Chine, la Chine avait le PIB d'un pays d'Afrique australe. Mmh. C'est-à-dire extrêmement bas. Et aujourd'hui, c'est la première économie du monde, hein, en termes de PIB. Par rapport en parité de pouvoir d'achat, c'est le premier PIB du monde.
On peut même dire tout simplement que la Chine, c'est l'avenir du monde. Je pense que ça paraît évident, en tout cas pour tous les gens qui réfléchissent dans les hautes sphères, y compris au niveau de l'OTAN, etc. On ne se fait pas mystère du fait que la Chine va prendre la première place, va dominer le monde peut-être. Alors,
franchement, je crois pas ça. Je pense aussi que de toute façon, tout le système au bout d'un moment ralentit, une énorme croissance, mm-hmm. En partie parce qu'elle est en partie capitalistique. Mm-hmm. Il y a des forts éléments de socialisme. Bon, 80% des secteurs clés sont socialistes et 40% de secteurs non clés sont socialistes aussi. Bon, mais il y a aussi de forts éléments capitalistes, et quand on est dans le capitalisme, on est aussi soumis, au même titre qu'un autre, à la baisse tendancielle du taux de profit. La croissance de la Chine va forcément ralentir. Ça c'est obligé.
Mais je parlais pas que d'économie à moi. Ni même de modèle politique a priori. Oui. Comme tu l'as souligné, c'est quand même des choses assez rares dans l'histoire que il y ait de tels bons en avant. On a connu ça avec la révolution de 1917 en Russie par exemple, et ici en Chine, de tels bons en avant dans l'histoire, c'est assez rare. Ça démontre la force d'une nation ou d'un système.
Et aussi d'un système, parce que disons que le fameux pays, l'URSS, qui est passé de l'arrière à Sputnik, je crois que la formule est de Churchill, mm-hmm. À moins qu'elle soit d'Isaac Deutscher, hein, bon, c'est à vérifier, mais en tout cas, non, je crois qu'Isaac Deutscher disait ils l'ont pris avec l'arrière, ils l'ont laissé avec la pile atomique, mm-hmm. et pourtant il était de ceux qui n'étaient pas staliniens, mais il parlait de Staline à ce moment-là, mm-hmm. Mais on voit bien qu'il y a quand même un point commun, disons, dans la manière socialiste de gérer l'économie. Ah, moi, je suis d'une génération où on s'était pris en gros la chute du mur de Berlin dans la figure, mm-hmm. et on vous disait que le système, ça marchait pas. Mm-hmm. Le socialisme, ça marchait pas. C'était vraiment l'antienne que j'ai entendu pendant toutes les années 90 et même 2000. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut quand même réviser vraiment ce point de vue. Je crois que vraiment, s'il y a un système qui marche pas, c'est bien le capitalisme au stade sénile, hein, tel que nous le vivons. Mais ça va absolument pas dire que tout me plaît dans le système chinois. Hein, et personnellement, je suis français, je pense pas qu'il faille copier comme ça. Enfin, je dis pas ça pour me défendre de dire ça, mais je trouve que c'est absolument ridicule ce qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis nommé deux fois, mais c'est un petit peu anecdotique. Maxime Vivas, on en est carrément à une sorte de chasse à l'homme. Hein, c'est devenu ce monsieur qui a quand même 80 ans, qui bêche son jardin, en plus de faire d'excellents livres, il est devenu l'ennemi public numéro un. Donc c'est carrément la course-poursuite.
Ouais, on va en reparler.
61 fois.
Ouais. On va en reparler de Maxime Vivas et du travail qu'il fait. J'ai envie de poser une question bête, parce que là, les gens qui nous écoutent vont se dire, oh là, les gars qui sont en train de parler, ils sont pour des dictateurs. Voilà. Alors, est-ce que la Chine est une dictature Monsieur Mélenchon ou Monsieur Intel, est-ce que la Chine est une dictature?
Oui, ça c'est vrai que c'est la question qui tue.
Ça c'est le truc qu'on peut pas.
Mais d'une certaine manière, moi je veux la traiter théoriquement. Il faut savoir que un certain Karl Marx parlait de dictature du prolétariat. Mm-hmm. C'est le sens qu'il mettait. C'est pour ça qu'il y a eu un gros débat dans le PC au moment du 22e congrès en 76 où on a abandonné la dictature du prolétariat. les gens qui voulaient l'abonner disaient que c'était connoté de manière très très négative, alors qu'au 19e siècle, vous savez, c'est plutôt la définition romaine de Prévost. La dictature, c'est pendant un an, vous avez le moment de trouble, donc on confie le pouvoir à quelqu'un, un peu comme Quinquennatus, et qui revient après à sa charrue. C'était un petit peu ça la définition de dictature. Donc chez Marx, il y avait un côté quand même provisoire, temporaire. Bon, il est évident que
comme chez
Robespierre, oui. Alors c'est sûr que la temporalité de la construction du socialisme, on a dû quand même beaucoup la revoir. Mais ça, c'est parce que c'est vraiment long, que parce que l'encerclement est réel. Donc le fait qu'il y ait que dans le socialisme, il y ait la plupart du temps donc un parti dirigeant, hein, qui pas unique, mais un parti au moins qui dirige et qui garantit, disons, le fait qu'on reste dans le socialisme, ça me semble important. Bien sûr, il faut absolument que ce parti permette la libre expression, du moins au moins de pas de faction, mais en tout cas de l'expression en son sein. Hein, le libre débat, ça fait partie. Lénine parlait de centralisme démocratique, hein, c'est-à-dire que le débat doit avoir lieu de manière démocratique. Une fois que la décision majoritaire est votée, elle s'applique pour tout le monde.
Bon, voilà. Ça, la Chine, on va pas en parler tant que ça. Il y a énormément de choses à dire sur ce pays. Et effectivement, c'est passionnant. Et on peut le voir sans être un supporter, puisqu'on est aussi en période électorale, donc on a beaucoup de supporters en ce moment. Les gens qui réfléchissent comme des supporters. On va essayer de rester quand même entre un animateur de radio qui fait de la radio depuis plus de 20 ans et un camarade qui édite des bouquins sérieux. On va essayer de pas être supporter.
Depuis 20 ans aussi. Pourquoi? Comme quoi, on vieillit.
Tout à fait. Donc, voilà, c'est passionnant, la Chine, mais en vérité, ce bouquin, les divagations des anti-chinois en France, ça dit beaucoup de choses de la France, et on pourrait poser cette question un peu ironique. Comment un Français peut-il imaginer qu'on puisse être persan aujourd'hui, ou chinois? Il y a quelques années, reçu sur cette même antenne Rolling Cheng pour un bouquin qui s'appelait « Les Chinois sont des hommes comme les autres ». Le titre lui-même démontrait le travail qu'il y avait à faire en France par rapport à cette question-là. Le point de vue du Français, on parlera des Russes après, hein, mais le point de vue des Français sur les Chinois, est-ce que c'est pas ça qui est le pilier du travail qui est fait, notamment contre vous, et contre les gens qui veulent réfléchir sur l'avenir du monde, sur la Chine, etc.
Oui, justement, Rolling Chen faisait partie de ces 17 auteurs. Effectivement, c'est quelqu'un qui est présentateur de télé en Chine et puis qui a une maîtrise du français qui est absolument époustouflante.
Balzacien.
Et donc, qui est voilà, exactement, qui est non seulement bilingue, mais surtout biculturel. Et je pense qu'il nous manque aussi, on manque beaucoup de gens de ce point de vue-là. Les valeurs des Lumières en France, hein, c'est effectivement, on peut les résumer à Montesquieu. Comment peut-on être persan? Comment ça se fait que des gens soient des hommes, mais avec une civilisation complètement différente de la nôtre? Qu'est-ce que ça veut dire? J'allais dire même un autre texte fondateur. Comparaison n'est pas raison, mais c'est celui de Montaigne sur les cannibales. C'est comme cette capacité pour un chrétien à cette époque de comprendre que le cannibalisme des Indiens d'Amérique a un côté rituel et qu'il n'a rien de satanique. Même si effectivement a priori
c'est dégueulasse.
Oui, voilà, on sera d'accord. Mais l'effort intellectuel, voilà, de penser la différence, c'est quelque chose qui nous était propre. Aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que, ne serait-ce que, comment peut-on ne pas être totalement occidentalisé ou américanisé? C'est difficile pour mes contemporains et mes compatriotes de le penser. D'autant plus que si on voit par exemple un certain nombre de censures qui ont lieu, là je pense par exemple aux censures des chaînes russes, il n'y a pas que les chaînes russes en français, il y a eu aussi les chaînes russes normales, hein, on n'y a plus accès, hein, personnellement. Et ça, il n'y a même pas eu besoin d'une déclaration de Madame von der Leyen pour le dire, ça a été coupé. Bon, on voit quand même aussi les limites de notre système qui s'enorgueillit de ce fameux libéralisme, hein, parce que ce sont, disons, par rapport à certaines démocraties autoritaires, hein, c'est un terme assez convenu, quand on parle de verticale du pouvoir en Russie, ça existe. Effectivement, si on peut parler aussi de centralisme démocratique dans certains pays socialistes, je veux bien comprendre que ça ne nous plaise pas, mais nous, on y oppose quoi, en fait? Dans nos pays, on oppose une sorte de plutocratie libérale. Je ne fais que reprendre les termes d'Emmanuel Todd, hein, qui en parlait encore en janvier. On n'entend plus beaucoup maintenant, mais pourtant, c'est exact. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un président qui va être le président des riches, qui va être élu, est absolument détesté, enfin qui sans doute être élu, qui est absolument détesté par deux tiers des Français. C'est-à-dire que le pays va être bientôt complètement ingouvernable. Donc il y a bien un problème de légitimité, de représentativité démocratique. Mais en plus, donc il se cargue en disant bon, au moins on va pas venir vous chercher chez vous. Bon, pour l'instant, on le voit bien avec ce rapport de l'IRSEM, il commence à faire des fiches. Sur les uns, sur les autres, et la fascisation, on la sent comme une venir. Hein. Il y a une droitisation de ce pays. Dans la droite, c'est qui sera le plus raciste que l'autre. C'est la surenchère, mais qui va à l'encontre de tous nos principes républicains. Enfin, qui est un côté délirant. Hein.
Mm-hmm. Et... Oui, ça se corse, ça se durcit. Mm-hmm. C'est même pas un jeu de mots quand je dis ça se corse. Hein. Pour revenir, il y a une histoire dans l'histoire, si je puis dire, sur les anti-chinoiseries en France. Pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, on se souviendra qu'il y a eu il y a quelques années une campagne magistrale sur le Tibet. Elle était menée par quelqu'un qui s'appelle Robert Ménard, hein, qui à l'époque dirigeait une association financée par la NED, appelée oui. Reporters sans frontières, et je pense que c'est Maxime Vivas.
Est-ce que la NED, National Endowment for Democracy, c'est une association qui est pilotée par la CIA, financée
oui,
par la CIA.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Voilà. Je pense que c'est dans le bouquin justement de Maxime Vivas. Hein. Oui. C'est lui qui avait... Voilà, donc il avait commencé par le Tibet. Bon, depuis le Tibet, ça s'est calmé, parce que apparemment, je sais pas, le Dalai Lama a pris sa retraite en termes de il avait suffisamment de points à la CIA lui aussi j'imagine, et donc il a peut-être pris sa retraite. Ça s'est largement calmé. Mm-hmm.
Par contre Vivas y était allé, et puis simplement il avait constaté que non, ce qu'il trouvait choquant, c'est qu'il y avait, trop plein de pierrières de rue, alors qu'en France a priori on est trop laïque pour autoriser ça. Mm-hmm. Donc, alors qu'on nous disait qu'au contraire la religion était persécutée. Mm-hmm. ce qui est bien sûr le contraire.
Oui, enfin, puis c'était une époque de fake news. Il y a eu énormément de fausses images, de fausses informations circulant pour essayer de détacher, ça c'est un projet impérialiste aussi, hein, de détacher certaines provinces chinoises, notamment à l'ouest. Le Tibet, bon, il y a eu un relais maintenant, c'est la question des Ouïghours. Alors il y a des camps de concentration, paraît-il, où les Ouïghours sont victimes quasiment d'un génocide. Et là aussi, Maxime Vivas, notamment, connaisseur, puisqu'il va là-bas, nous dit tout ça c'est du pipeau.
Oui.
C'est bien ça ?
Oui, il y allait à deux reprises. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement là où c'est cocasse, c'est que la population a cru de 26% en 8 ans. Oui, entre 2010 et 2018, c'est ça les statistiques qu'on a. Ce qui est un peu logique, d'autant plus que c'est une population donc, qui a bénéficié effectivement de cette immense croissance chinoise et qui n'a pas eu, en tant que co-nationalité, c'est-à-dire qui ne font pas partie des Han, qui sont la majorité mm-hmm. du pays, parce que quand on dit chinois, il y a plusieurs effectivement ethnies. Ces Ouïghours n'ont pas eu à s'imposer la politique de l'enfant unique, comme mm-hmm. les Tibétains d'ailleurs. Hein. Donc c'est les Chinois le prennent d'autant plus mal ces attaques-là, que personnellement, s'il y a des gens à qui ont bien dû s'imposer, je crois que justement en 2016, la politique de l'enfant unique, c'est bien eux.
Oui, c'est-à-dire donc, que là, on reproche au pouvoir chinois, en gros, d'avoir une volonté génocidaire vis-à-vis de cette province, mais en même temps, c'est une province qui se développe et qui voit sa population croître, ce qui est paradoxal.
Donc ça veut dire qu'ils sont en très très grande forme, mais bon, après ils se rabattent évidemment, dès qu'on commence à les contredire, mais ils ne laissent pas beaucoup contredire, ils se rabattent sur le terme de génocide culturel, en disant que par exemple la religion serait persécutée. Alors le nombre de mosquées a cessé de croître depuis les années 70, hein, surtout par rapport à l'époque de la révolution culturelle. Mm-hmm. Il vous suffit de regarder n'importe quelle photo là-bas, vous verrez des barbus partout, il n'y a pas de problème. Hein. Alors bon, ces barbus, ils posent aucun problème, mais à partir du moment où certains d'entre eux veulent imposer une démocratie sous forme de charia, on peut comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Je pense que ça nous plairait pas non plus.
Ils sont plusieurs milliers à être partis se battre en Syrie. Comme on a connu ici des gens qui sont partis se battre en Syrie, qui sont revenus nous appliquer les méthodes qu'ils ont apprises là-bas. Hein.
Voilà, bon, c'est toujours la vieille alliance des États-Unis et oui. des islamistes, mm-hmm. comme on a vu depuis l'époque de l'Afghanistan. Mm-hmm. Effectivement, c'est quand même une minorité, hein. Mais alors, donc c'est des gens qui pour eux, ça ne s'appelle pas le Xinjiang. C'est le Xinjiang, ça veut dire en chinois, ça veut dire la nouvelle frontière. C'est mm-hmm. le nom de leur province. D'ailleurs, il n'y a pas que des Ouïghours. Hein. Les Ouïghours sont une forte majorité, il doit être 52% à peu près. Mais il y a mm-hmm. aussi d'autres ethnies, et a priori, qui ne sont pas toutes musulmanes, qui n'ont pas forcément envie d'avoir non plus la charrette sur tout ce territoire. Mm-hmm. Mais donc, il y a un certain nombre de fous de Dieu qui considèrent que ça s'appelle en fait le Turkestan oriental. Et effectivement, ces gens sont choyés, cajolés, comme...
Toutes les informations sur les Ouïghours, enfin, sur le génocide Ouïghours, etc., proviennent en fait d'une seule et même source, un certain Adrian Zenz. Vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, oui. Alors lui, c'est, bah, c'est un homme d'extrême droite, d'un anticommunisme échevelé, qui a publié déjà des déclarations complètement antisémites, avec un ton tout à fait naturel parce que c'est son mode de pensée, et qui par exemple est pour application. Alors il y a des choses même qui sont presque cocasses. Il défend mordicus la fessée scripturaire, c'est-à-dire que il faut appliquer la fessée aux enfants parce que c'est dit dans les Écritures. Mm-hmm. Enfin, vous voyez le genre de dingue qui est mis en avant.
Mais comment c'est la seule source il vit là-bas.
Oui, parce qu'en fait c'est facile. C'est, vous avez à partir du moment où vous avez une note en bas de page où c'est sourcé, on vous dit que c'est sérieux. Donc il faut toujours qu'au bout de chaîne on ait cette personne-là. Mais ça fait 15 ans qu'il n'est pas allé au Xinjiang. Hein.
Ouais.
Donc
ouais.
Dès qu'on remonte, ça pue, quoi. Puis on retrouve toujours aussi Monsieur Raphaël Glucksmann. Mais alors lui, on le retrouve partout.
Hein. C'est l'enfant caché de BHL.
Oui, en fait, c'est Glucksmann et BHL, ils fonctionnaient ensemble. Hein. Je sais pas, vous avez l'âge d'avoir connu ça, mais oui, ça marchait par deux. Et voilà. Ouais. Et donc Glucksmann Junior, bah lui, il a fait d'abord ses armes en Géorgie.
Ouais.
Oui, il était l'époux de la ministre de l'Intérieur et on s'est rendu compte que la population était pas du tout contente puisqu'ils ont dû fuir avec le président Saakashvili qui était son ami et qui avait écrit un livre. Ça, il nous raconte. Pourtant, il connaît vraiment bien la Géorgie. Et là, il nous parle pas beaucoup des conditions assez déplorables de l'exercice au pouvoir de Saakashvili, mais il connaît tout sur le Xinjiang. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup cherché. D'abord, il a été dans un parti ultra-satchérien, puis après, il a traîné au PS. Maintenant, il se dit à gauche. Mm-hmm. Et puis, il est toujours d'accord avec l'agenda états-unien. Là, il est allé aussi à Taïwan hein, pour ouais. nous sommes avec vous. Ce qui pose un problème, parce que vous savez qu'il y a un problème de statut diplomatique de Taïwan, en fait, mm-hmm. qui est pas reconnu à l'ONU, en fait. Donc, d'une certaine manière, il légitime Taïwan. Mm-hmm. Il légitime aussi la pression que font les États-Unis. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, la Chine a été encerclée de différentes manières. Hein, si c'est pas la question de Hong Kong, c'est le Tibet, comme vous le disiez, ou c'est le Xinjiang, ou c'est mm-hmm. bientôt ce sera Taïwan. Voilà, bon, c'est récurrent. Hein.
Alors, ces divagations... tu disais tout à l'heure, tu disais que je sais plus comment tu as dit ça, mais l'ouverture d'esprit, on va dire, de nos contemporains aujourd'hui, en Occident, en Europe, en France en particulier, elle pose vraiment question. Comment peut-on être persan? Comment peut-on être chinois? Comment peut-on être russe? Est-ce que, tout simplement, on peut pas parler de racisme? Parce que, par exemple, si on parle de la Chine un français moyen, on va avoir on va nous dire ah c'est là où les enfants travaillent par exemple. Je pense qu'il y a plus d'enfants qui travaillent en Chine depuis déjà un bon bout de temps. Mais c'est la même chose sur la Russie.
Oui,
ce sera Goulag, ce sera Staline.
Ouais. Non, c'est vrai, c'est que par rapport à l'Inde, il y a toujours du travail infantile, parce que justement c'est un pays capitaliste et qui n'a pas résolu ces problèmes de
l'Inde. Hein. Ouais, ouais.
Oui, l'Inde. Mm-hmm. Donc c'est bien de comparer des pays qui sont comparables, mais justement on voit bien la différence de système. Mais oui, effectivement, pour la Russie, pour la Chine, c'est un petit peu la même chose. On les met d'ailleurs dans le même paquet. Et bon, d'une certaine manière, c'est vrai que les pays sont quand même assez liés, puisque le fait que là, la Chine se soit simplement abstenue à l'ONU au propos de l'affaire ukrainienne, c'est sûr que c'est assez significatif.
Oui, puis la Russie va jouer un rôle aussi dans la nouvelle route de la soie. Enfin, déjà géographiquement, enfin bon, il y a potentiellement un autre bloc qui est en train d'émerger. Enfin, il y a des gens à qui ça fait peur. On nous fait peur avec ça, mais alors il faut que toi et moi, Aymeric, nous soyons très clairs là maintenant à ce moment de notre entretien. Nous ne sommes, enfin, moi je vais déjà le dire moi, et puis après tu le jureras toi aussi. Hein. Moi je jure sur la vie de ma mère, je ne suis pas pro-Poutine.
Ah oui,
dis-le toi aussi.
Je pense que c'est assez bizarre, mais moi, tout le monde sait que je suis marxiste, même marxiste-léniniste. Hein, mes ambitions que je dirige sont marxiste-léniniste.
Ouais.
Donc a priori, non, j'ai des divergences sérieuses au point de vue économique avec Vladimir Poutine. Et mon référent, a priori, c'est plutôt les communistes là-bas. Mm-hmm. Bon, a commencé, j'ai pas d'exclusif, mais a commencé quand même par le second parti depuis et toujours, hein, parce que aux élections présidentielles, il arrive toujours en seconde place. C'est le parti communiste de la fédération.
Alors,
a priori, j'écoute un peu ce qu'il dit. font. Mais bon. D'ailleurs, justement, ce qui est très intéressant, c'est que bon, moi Poutine, d'une certaine manière, je compare beaucoup à De Gaulle. Et bon, je suis communiste. Hein, c'est pas à chaque fois qu'on parle de De Gaulle, tout le monde est censé applaudir en France. Mais non, après, je suis dépassionné vis-à-vis de cette question. C'est-à-dire que je pense que les bons côtés de De Gaulle étaient dus au fait qu'il y avait un fort parti communiste en France. Mm-hmm. Sinon, De Gaulle serait resté bon, un journaliste, lecteur un militaire, lecteur de la Fonction française qu'il était. Hein, et puis, mm-hmm. Secrétaire de Pétain, c'est quand même un certain milieu. Donc, mais je crois que le phénomène Poutine, c'est un phénomène de transition qui est lié au fait qu'on ne pouvait pas laisser complètement les oligarques piller le pays, et parce que sinon c'était les communistes qui revenaient au pouvoir, donc ils ont trouvé une sorte de
compromis,
de solution, ouais, de compromis.
En fait, c'est un nationalisme bourgeois. Et la guerre déclenchée par Poutine, enfin déclenchée, le mot est peut-être pas le mieux choisi, mais la guerre menée par Poutine en Ukraine, c'est une réaction de la bourgeoisie russe par rapport aux bourgeoisies occidentales. Donc effectivement, en tant que marxiste-léniniste, on ne va pas être supporter, encore une fois. Mais par contre, on veut observer et analyser, et sans tomber dans les délires.
Il faut bien dire qu'effectivement les républiques du Donbass, sécessionnistes, et qui sont quand même un esprit très ouvrier et là très marxisant, avaient besoin d'être défendus. Ça, c'est, mm-hmm. c'est une évidence. C'est sûr que la Russie n'a pas le bon rôle en violant, pour une fois, j'allais dire, parce que les États-Unis volent ça presque une fois par an, mm-hmm. la charte de l'ONU sur les frontières, hein, sur la non-ingérence. Donc non, évidemment, il faut absolument que la situation qu'il y ait une sorte de désescalade. A priori, l'Ukraine doit pouvoir être reconnue dans son intégrité, mais bon, qu'elle soit dénazifiée et démilitarisée...
Ça a choqué, ça. Dénazifiée, oui. Ça a choqué. Oui. Parce que là, je veux qu'on s'arrête aussi 2 minutes là-dessus. On remarquera qu'on est passé de la Chine à la Russie. Présentais de manière un peu humoristique ton dernier ouvrage, j'ai vu ça sur Facebook, Les divagations des anti-chinois en France, en disant que c'était un livre sur la Troisième Guerre mondiale, mais finalement, ça va être sur la Quatrième, puisque la Troisième, c'est maintenant. En gros...
je m'étais gouré de guerre mondiale, en fait.
Tu t'es gouré de guerre mondiale, ouais. C'est-à-dire que...
Il nous reste toujours l'humour, hein, dans ces cas-là.
L'ennemi, c'est la Chine, hein, mais il y a un ennemi intermédiaire, on va dire, hein, et très actuel, c'est la Russie. Et j'ai envie de dire qu'on retrouve là, dans la propagande, pas la propagande russe, puisqu'on n'y a plus accès, hein, on sait bien qu'elle n'est pas non plus très fine, hein, évidemment, mais dans la propagande occidentale, on retrouve toujours les mêmes logiques. Alors, on a à nouveau un nouvel Hitler. Hein, puisque on a eu Nasser, on a eu Kadhafi, on a eu Saddam Hussein.
Ça commence avec Nasser, les nouveaux Hitler, ça commence avec Nasser.
On a eu Milosevic, bon. Alors là, il y a les analogies aussi Hitler-Staline, ça c'est très important, de les mettre tous les deux sur le même plan, et puis de dire que Poutine, c'est l'expression...
Attention, là tu parles du programme de nos écoles, hein, c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles.
Oui, c'est ça, tout à fait, oui, c'est ce qu'on a dans les livres scolaires. Ce qu'on
appelle respect, monsieur.
Les totalitarismes, oui. C'est pas interdit, les manuels scolaires ne sont pas interdits, hein.
Ouais. Après, ils comprennent pas pourquoi à Munich, en fait, le ministre des Affaires étrangères disait à Ribbentrop, nous vous laissons les mains libres en Russie. C'est-à-dire qu'objectivement, ils étaient.
Bien sûr.
Ce qu'ils auraient
bien
voulu, sûr. C'est que Hitler puisse conquérir la Russie. Et... Bon. Enfin, moi, je donne toujours une réponse, c'est quand même important pour nos auditeurs. Quand Hitler est arrivé en Russie, c'était pour réduire la population ou en esclavage ou l'exterminer. Mmh. Quand l'armée rouge est arrivée en Allemagne, ils ont fait la RDA, c'est-à-dire le pays le plus riche du Comécon.
Voyez-vous pas la guerre comme un chien dans les prés? Il paraît qu'on doit la terre, et terre que vous mourrez. Défense de dire la guerre peut s'éviter dans vos mains. Prenez au peuple la guerre, immense des lendemains. Jaurès ou Péri, la guerre, ceux qui parlent d'avenir, il lui faut pour son enfer. Les condamner à périr, il faut le feu de la guerre pour sauver les champs de proie. Il faut à ceux qui s'enferrent, la force faite le droit. Un moment vient où la guerre, afin que n'éclate un jour le bruit maudit des affaires, devient l'unique recours. La guerre, la vieille guerre. 14 à 39, nos ministres lui font faire un bel uniforme neuf. Qu'est-ce bon cœur que la guerre auprès de ne plus régner, et leur épouvante espère le napalm et l'araignée. Du moment que c'est la guerre, tuer décide de tout. La loi de l'incendiaire est et la loi sur les genoux, les désastres de la guerre brouillent les pas du passé. Ce qui fut avant se perd dans l'éclat du sang versé. Ce qui fut avant se perd dans l'éclat du sang versé.
Radio Campus.
Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur.
106,6.
Alors, dans les bouquins que les éditions Delga éditent, pardon, il y a un bouquin qui a retenu notre attention, parce qu'on est dans cette logique-là, un bouquin d'un certain Zemskov, Staline et le peuple. Est-ce que tu peux en dire deux mots, parce que ça va révéler aussi, parce qu'il y a le regard, en France on a des sinologues et alors on dit même plus des soviétologues, on dit des kremlinologues, je pense, c'est vraiment, ça va mourir de rire. Hein.
On a une kremlinologue, ça prouve à quel point ils veulent pas
voir le pays.
S'intéresser au pays, ouais, c'est ça. Ils veulent voir que le Kremlin. Hein, aujourd'hui il y a deux syllabes qui expliquent tout, c'est Poutine. Une fois que t'as dit Poutine, t'as tout expliqué.
Ouais. C'est ça. Hein. Donc, il y en avait deux autres avant qui étaient aussi redoutables, c'était Stalin.
Oui, c'est aussi en ligne, hein, déjà, je ne sais pas si tu as remarqué, ça, c'est bon quand même, voilà.
Alors, ce bouquin de Zemskov, qu'est-ce qu'il dit et en quoi ça peut nous intéresser aujourd'hui? Donc, Staline et le peuple, il y a avec un sous-titre, te rappelle-le-moi.
Oui, le sous-titre, c'est pourquoi il n'y a pas eu de révolte, qui est quand même une bonne question.
Oui,
c'est-à-dire que, justement, si on accepte le narratif occidental, comment ça se fait que le peuple russe a supporté ça? Et donc, d'une certaine manière, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, pour une fois, je n'ai pas publié un communiste. J'ai publié un historien complètement objectif, non partisan, et qui se trouve qu'il avait fait ses études en Union soviétique, il était historien qualifié, et au moment où l'Union soviétique tombe, il y a ouverture des archives, qui a d'abord été plus ou moins partielle, puis ils ont été refermés, etc. Mais bon, il y a une équipe qui y va. Et c'est lui qu'on cite toujours, parce que c'est lui et son équipe qui commencent à donner, par exemple, les vrais chiffres du Goulag, dans les archives du NKVD, enfin, ce genre de choses. Alors, le paradoxe, c'est quelqu'un qui est constamment cité en Occident, c'est-à-dire que même dans le livre noir du communiste, on est obligé de tenir compte des chiffres de Zemskov. Mais on n'a jamais traduit Zemskov. Parce que Zemskov, lui, n'acceptait pas les filouteries du livre noir qui vont vous dire que, par exemple, la guerre civile, c'est la faute des communistes. Mm-hmm. Tous les morts de la guerre civile sont les occultes. Après, pour faire une guerre civile, il faut être au moins deux.
Oui.
Bon, enfin, même s'ils n'étaient pas deux, ils étaient 14, hein, parce qu'il y avait 14 nations qui étaient sur le sol soviétique. Ça, évidemment, ils en parlent pas. Ou ils attribuent des famines, la famine de 21, ils l'attribuent aux bolcheviques, comme si c'était, comme fait, elle a des causes naturelles, enfin, bon, dans un contexte. Il dit qu'a priori, personne n'avait jamais pensé ça. Enfin, et puis surtout, il arrive à des conclusions qui sont, en plus, qui sont sourcées, archivées. C'est lui qui était cité par les autres, c'est lui qui bossait, en fait, d'une certaine manière. Mais simplement, il agrémentait pas ça pour, il faisait pas rentrer, en fait, des statistiques pour que ça plaise à Stéphane Courtois, quoi, d'une certaine manière. Quoi.
Et qui l'a traduit, alors, là, maintenant?
C'est un traducteur qui signe Cyprien Anatole, donc ça a été traduit du russe.
Et quelles sont les conclusions intéressantes? J'ai vu par exemple sur la notion de goulag des choses intéressantes, mais qui contredisent complètement l'histoire officielle, je dirais.
Oui, non, c'est sûr que...
Non pas que les goulags n'aient pas existé. Hein.
Oui, oui. Non, mais c'est sûr que quand Solzhenitsyn disait qu'il y avait 110 millions de morts, quand la soviétologie occidentale pendant la guerre froide disait qu'il y avait 50 à 60 millions de morts, et que la soviétologie occidentale, après l'ouverture des archives, a été obligée de dire qu'il y avait 20 millions de morts, bon, Zemskov, qui est le mec qui bossait, le mec qui allait dans les archives, lui arrive avec 2,6 millions. Alors, évidemment, c'est 2,6 de trop. Mais simplement, ce que je trouve intéressant, c'est que lui-même, il disait pas, il n'avait pas intérêt il voulait pas défendre à tout prix le communisme, il s'en moquait de cette question du marxisme, du communisme, ça n'intéressait pas. Mais simplement, au bout d'un moment, une forme de patriotisme chez lui, qui n'a rien d'outrancier, mais simplement qui arrive, c'est dire, à force de laisser dire n'importe quoi sur l'Union soviétique, vous allez finir par laisser croire que justement les Russes sont un peuple vil, voué au knout, voué à la
tyrannie, à l'autocratie.
Et le pire, c'est que c'est une question très actuelle, parce que ça continue aujourd'hui. Là, on a l'impression qu'en fait, en fait, ce qu'il disait, c'est que bon, c'est 2,6 millions, ça faisait que bon, sur une population de 170 millions à peu près, bon, bah, tout le monde n'est pas vraiment au courant de l'ampleur de cette répression. Enfin, en tout cas, la personne pas dans sa chair. L'impression qu'ont gardé les Russes de cette période de la Grande Guerre patriotique, c'est une lutte pour l'humanité. C'est une lutte contre le fascisme, c'est une lutte absolument héroïque. C'est cette image qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est surtout ça. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas invités récemment aux cérémonies d'Auschwitz, alors que c'est pourtant l'armée russe qui libère Auschwitz. Ils ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas invités au débarquement.
On ne peut pas comprendre la Russie, on ne peut pas comprendre. Donc, alors, si, il faudrait faire une psychanalyse de Poutine. Il faudrait en arriver là, mais on ne peut pas comprendre la Russie, on ne peut pas comprendre ce pays si on ne comprend pas cette histoire-là, notamment cette guerre héroïque antifasciste qui a été, pour moi, révélée par Poutine même lorsqu'il a tenté de justifier la guerre qu'il mène actuellement en Ukraine, en parlant de démilitarisation, soit, mais de dénazification, ça a choqué. Et on a bien vu que ça a choqué, on a dit, il a perdu la boule, le gars, il dit n'importe quoi, ou il essaye de faire de la propagande. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a eu une exagération, ceci étant. On va pas refaire on l'a dit sur cette antenne il y a quelques semaines ici, hein, que effectivement
il n'y a pas d'exagération. Hein.
Il peut l'exagérer. On sait très bien que on peut exagérer les choses, mais effectivement le poids des nazis en Ukraine est bien plus important que ce qu'on veut nous en dire. Il n'est pas forcément électoral. Et on se parle aujourd'hui alors qu'on a appris, je pense que c'est totalement confirmé, que 11 partis de gauche viennent d'être interdits par Zelensky. Donc toi, tu as écrit un petit article que j'ai relu sur Le Grand Soir, Nazi Manon de Tropo. Quelques mots là-dessus?
Oui, non, effectivement, je découvre même encore aujourd'hui qu'il y a une interview de Zelensky en avril 2019, vous irez voir, c'est sur le site de la BBC. Donc ça, c'est pas encore interdit, mais je pense que maintenant, on n'a même plus besoin de lire des journaux russes, parce qu'en fait, tout y est. Il suffit de regarder les journaux occidentaux avant, parce qu'aujourd'hui, ils mettent la pédale douce, mais on voyait toutes les contradictions. Et c'est une interview du candidat Zelensky, et il dit, il faut mener à la décommunisation. Bon, on sait pas trop ce qu'il veut dire par là, mais bon, ça a été très violent à Odessa, la décommunisation, c'est allé jusqu'à brûler vif des communistes et des syndicalistes dans la maison des syndicats. Donc il dit les problèmes de la décommunisation. Et après, on lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Stepan Bandera, qui est devenu le héros ukrainien? Vous savez, c'est un pogromiste qui non seulement a tué des centaines de milliers de juifs avec ses compères nazis, mais aussi des Polonais, aussi des massacres de Volhynie, et qui est devenu le héros de l'indépendantisme ukrainien. Faut savoir aussi qu'il avait été aidé par les services secrets occidentaux, notamment les États-Unis et l'Allemagne, de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Zelensky? Oui, c'est devenu un héros. Héros de l'indépendantisme ukrainien, une partie des Ukrainiens trouve que c'est un personnage important. Et après, il dit en russe, "Это нормально и классно". C'est normal et c'est cool, quoi.
Ah oui, mais je l'ai vu. Ah, c'est sur la BBC. Je l'ai vu. J'ai pas retrouvé cette interview, mais je l'ai vu.
Si vous reverrez, c'est sur la BBC. Moi, j'ai franchement, je me suis dit, c'est pas possible. C'est la contre-propagande. C'est une propagande du côté russe,
Non.
Ça allait jusque là. Là, si j'ai même pas de fous furieux du bataillon Azov, parce qu'ils existent. Ils ont le Wolfsangel. C'est le Wolfsangel. C'est le crochet du loup en allemand. C'était le signe de la division SS Das Reich.
On en a déjà parlé sur cette antenne, et puis nous, on invite vraiment, on rappelle, hein, Zelensky a nommé quand même le fondateur du bataillon Azov comme conseiller spécial du commandant de l'armée. Juste un mois après, il décore au sein même de la Rada du Parlement ukrainien un des dirigeants de Pravi Sektor, donc on parle de nazis, là. C'est quelqu'un qui est financé par Kolomoïski, qui finance aussi ses bataillons. Et on a une lecture occidentale qui, à la limite, nous dit Staline, Poutine, le nouvel Hitler. Alors encore une fois, il faut qu'on répète, hein, nous, Poutine, on essaye de ne pas être supporters, nous. Poutine, c'est le nouvel Hitler. Par contre, les nazis qu'il y a là-bas, non, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Celui avec qui traîne BHL, il dit
Marchenko, là,
c'est un nazi modéré, en fait. Il y a des nazis modérés, en fait, si j'ai bien compris.
Oui, mais il y a même un article de Check News, celui auquel tu fais allusion, c'est encore dans Nadim Malanthropos, c'était encore un précédent article de Check News, mais moi j'adore les Check News de Libération parce que c'est des fact-checkers, des vérificateurs de femmes, ils sont obligés de cacher la réalité ou de l'atténuer. Et donc comment on peut pointer le fait que à Odessa qui est l'une des villes les plus russophiles et en tout cas russophones d'Ukraine, hein, c'est 80% 85% des gens qui parlent russe, hein, qui parlent pas ukrainien. Mm-hmm. Ils parlent russe et puis c'est la ville du Potemkin, hein, comme vous savez, Odessa, il y a toute une ombre révolutionnaire. C'est là où il y a donc eu cet affreux massacre à la maison des syndicats en 2014. Et ben oui, effectivement, ils ont confié la défense de la ville aux dirigeants du bataillon Haïdar, le fameux Marchenko. Et le bataillon Haïdar, il y avait, c'est pas la propagande de troll poutinien, il y avait un rapport d'Amnesty International sur les crimes de guerre, hein, de ce bataillon. Mm-hmm. Alors je crois que le dernier article de Check News, il dit oui, mais il n'est pas cité nommément. Enfin, j'ai même pas vérifié, mais enfin, oui. Ils en sont là. Hein. Franchement, oui, ils en sont là. Ils n'ont pas honte, comme franchement. Mais vous imaginez le pauvre Scribouillard, là, moitié pigiste à Libération, son patron lui dit ouais, il faut que tu dénazifies un peu. Est-ce que c'est pas un peu exagéré cette histoire là de nazi là? Mais c'est dur pour eux, hein, parce que là, j'imagine, pour essayer de cacher ces nazis contre feu. C'est vraiment le...
Cacher ces nazis contre feu, oui.
Ouais, exactement, oui.
Ouais, c'est terrible. Mais
faut imaginer ce que ça veut dire aussi. Hein, bah, en fait, ils vont confier à un néo-nazi la défense d'une ville avec des civils bon, qui sont majoritairement pro-russes. Mais on ose imaginer ce que ça va donner. Hein. Mm-hmm. Donc moi, je ne veux pas trop rentrer dans les commentaires sur...
Dans le détail, à ce moment-là, mais bon.
Oui, et ben, exactement, mais surtout, bon, en temps de guerre, de toute façon, les informations sont toujours c'est très flou, c'est très difficile.
Justement.
Mais là, on peut essayer de raisonner un petit peu avec qui sont ces gens-là, d'où ils sortent et à quoi ça...
Parce que là, on envoie quand même des armes dans un pays qui est tenu par la mafia, hein, bah, comme d'autres pays, hein, parce que chez nous, c'est des milliardaires, là-bas, c'est des oligarques. Hein, en Ukraine aussi, hein, je rappelle, c'est comme la Russie, hein, il y a des oligarques aussi. On envoie des armes où il y a des groupes extrêmement bien structurés qui sont nazis, et on est en train de masquer leur véritable nature, et en vérité, on transforme Poutine de l'autre côté, alors qu'il est juste un bourgeois nationaliste, autoritaire, mais qu'on le transforme en nouvel Hitler, on est en train d'inverser les choses, et je me dis que pour nous, Français, militants, par exemple, parce que ça touche, y compris la gauche française, ce genre de biais, pour nous qui sommes dans les luttes dans notre pays, est-ce que ça pose pas un problème d'avoir une lecture aussi biaisée de l'histoire?
Alors, je pense que s'il faut faire une comparaison un peu sérieuse au pays politique, Vladimir Poutine est un bonapartiste. Mmh. Donc le phénomène bonapartiste, ça a bien été analysé par Gramsci, c'est-à-dire quand vous avez deux forces en présence, comme par exemple les Jacobins et les monarchistes, et que rien ne se passe, c'est que les deux forces se regardent en champ de faïence, qu'il n'y a pas de possibilité, se neutralisent, voilà, c'est ça, et ben il y a une tentative pour une percée d'un seul homme, une politique, effectivement, donc cette percée bonapartiste, par certains côtés, il y a un côté Robespierre à cheval, c'est comme ça que l'appelait Madame de Staël, puis des côtés effrayants comme l'abolition de l'abolition, enfin, le refus de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Vous avez toutes ces contradictions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas expliquer le phénomène Poutine sans voir le palimpseste, hein, comme on dit, qui est le fait qu'il y a un fort parti communiste, avec une pression énorme, avec le fait que bon, bah, la politique de dénazification et de démilitarisation, le KPRF a voté pour. Mmh. C'est même la proposition de reconnaissance des républiques de Lugansk et de Donetsk.
Ça vient du Parti communiste.
Ça vient du Parti communiste de la Fédération de Russie. Mmh. Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est le Parti communiste de la Fédération, il était très très critique de la politique de Vladimir Poutine au plan intérieur. Mmh. Mais effectivement, il y a une sorte de consensus sur certaines grandes questions internationales.
Liées à l'impérialisme.
Qui touche aussi voilà, la défense du pays.
Mmh. Alors, je vois que le temps passe. Je rappelle qu'on est avec Aymeric Monville, donc, hein, qui dirige les éditions d'Elga. Des éditions, on vous invite, chers auditeurs, à consulter le site internet, des éditions d'Elga pour voir vraiment l'intérêt qu'il y a à lire certains livres. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, qui est qui est intéressant, qui s'appelle Le vol de Piatakov. Quelques mots peut-être là-dessus. Et puis, quelques mots là-dessus pour nous dire aussi, pour répondre à la question précédente aussi. Qu'est-ce qu'on est en France aujourd'hui pour ne plus s'intéresser à ces sujets-là? Et pour perdre la tête à ce point-là, moi je vois sur les réseaux sociaux, peut-être que tu vois ça aussi, hein, des militants dits de gauche qui plongent la tête en avant dans la propagande impérialiste. Et dans cette logique de supporter, encore une fois.
Ouais. Bah, ça nous ramène à un contexte aussi qui est celui de l'encerclement de l'Union soviétique dans les années 30. Donc, à propos de la question des procès de Moscou, hein, donc il y a eu principalement 3 procès de Moscou, plus celui des généraux qui était à huis clos. Aujourd'hui, après la déstalinisation du rapport Khrouchtchev, la doxa historique consiste à dire que ces procès ne reposent sur rien. Ce sont une fable inventée par Staline pour pouvoir se débarrasser de ses opposants. Alors, il est vrai que la pire période, on pourrait dire, du stalinisme, c'est la période des grandes purges, qu'ils appellent aussi Yezhovchina, qui est une période qui va de juillet 37 à novembre 38. Et là, effectivement, vous avez comme il s'appelait Molotov, a dit, il s'agissait d'éliminer préventivement toute cinquième colonne. Il y a un côté machiavélique et effectivement glaçant. Le problème, c'est que concrètement, s'ils ont pu lancer ça, c'est que les procès de Moscou ne partaient pas de rien. Et notamment, ils ont aux 3 procès qui a été quand même, non pas à huis clos, mais devant la presse internationale, devant les observateurs internationaux, ils ne pouvaient pas dire n'importe quoi et sans preuve. Et notamment le second procès qui est celui de Piatakov et Radek, qui sont en fait des représentants du trotskisme à l'intérieur de l'URSS. Et bon, bah, ce livre qui s'appelle Le vol de Piatakov établit que, effectivement, maintenant on a des preuves qui proviennent des archives de Trotsky, qui proviennent des contradictions même de Trotsky, qui montrent que Trotsky était bien en lien avec Piatakov et Radek, qui eux s'étaient infiltrés jusqu'au plus haut de l'appareil d'État stalinien, et que Piatakov avait profité d'un voyage officiel à Berlin pour rejoindre Trotsky en Norvège, à partir dans un vol en avion, le temps d'une journée, et parce qu'il fallait rencontrer Trotsky pour décider aussi pour entériner le fait que Trotsky avait passé un pacte avec les nazis. Ce qu'on sait maintenant aussi, et il suffit, là c'est quelque chose qu'on savait depuis longtemps, mais personne n'en parlait, c'est que en 1939, Trotsky prône l'indépendance de l'Ukraine. Ça, c'est très très actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne l'a jamais prôné avant, il ne le prônera pas après. Donc, comme vous savez, il va être assassiné en août 1940. Mais en 1939, il prend feu et cause pour l'indépendance de l'Ukraine. Alors, des esprits chagrins vont vous dire Hitler a déjà mangé la Tchécoslovaquie, il s'était déjà même auparavant emparé de l'Autriche. Il est sur la Pologne, ses plans, c'est très clair, c'est le Drang nach Osten, c'est-à-dire la poussée vers l'Est, pour donner de l'espace pour la race aryenne. Et effectivement, prôner l'indépendance de l'Ukraine, c'est pas simplement une question théorique, parce qu'effectivement, oui, dans le marxisme, le droit des peuples à disposer du même, ça existe. Effectivement, mais tout ça doit être délectisé avec l'intérêt du mouvement communiste international. Mais prôner effectivement l'indépendance de l'Ukraine à ce moment-là, c'est lui offrir clairement l'Ukraine sur un plateau. Et donc, c'est intéressant, c'est qu'au second procès de Moscou, Piatakov, comme vous dites, qui était l'accusé, vu que Trotsky était jugé par contumace, Piatakov avait dit, vous verrez, et ça paraissait dingue à l'époque, vous verrez, Trotsky va bientôt demander l'indépendance de l'Ukraine dans l'intérêt des nazis. Et bien, bingo, il l'a fait.
Et qui est écrit ce bouquin?
Alors, bonjour Leonis Sidoli, ce sont 3 essayistes italiens. Bon, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je connais bien le dossier, hein, parce que notamment un certain Grover Fuhr et puis beaucoup d'autres auteurs ont toujours essayé de résoudre le problème et ont apporté énormément de pierres. D'une certaine manière, plusieurs chercheurs se sont mis les uns sur les autres, enfin, c'est des nains sur les épaules de géants, on pourrait dire. Mais c'est l'aboutissement d'années de recherche. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ça commence à partir des archives Trotsky, de l'ouverture des archives Trotsky en 1980, où là, on s'est véritablement rendu compte, on a retrouvé. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, la correspondance avait disparu des archives, elle a été purgée d'une certaine manière, mais on a retrouvé en fait des brouillons de lettres, enfin non, des reçus postaux de lettres envoyées en fait à ses partisans, donc dont notamment Karl Radek. Et qui a fait le lien justement qui manque du procès de Moscou. L'idée même
Je vais te couper, Émeric, sur cette question, parce que là on devient des spécialistes là. Mais cette question, malgré tout, qui peut paraître très très vieille et peut-être périphérique pour certains, la question du trotskisme, la question du bilan de Staline, la question du bilan de l'Union soviétique en cette période où c'est recyclé d'une manière assez étrange finalement par l'impérialisme. Encore une fois, c'est la dernière dernière question que je te pose. L'état de la gauche française aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt à faire ce bilan, justement, à faire tous ces bilans pour y voir clair? Parce qu'on voit bien que, si on veut parler de la gauche en France, hein, ça devient même, on met des guillemets maintenant, hein, on a l'impression d'une grande, grande confusion, et notamment d'une grande confusion intellectuelle.
La gauche en France a marqué par l'ombre de Karl Marx. D'une certaine manière, c'était ou marxiste ou plus marxiste, mais en tout cas, le référent essentiel, c'était la possibilité de remettre en cause le capitalisme. Donc, de poser la question du socialisme. Donc, c'est pour ça que moi, depuis 20 ans, je m'échine à étudier ce qu'on essaie le socialisme réellement existant dans divers pays. Mmh. Je suis complètement contre, je suis pour toute forme de bilan, tu parlais de bilan, je suis tout à fait d'accord, il faut absolument la faire. Enfin, nous sommes marxistes, nous sommes scientifiques, il faut reconnaître nos erreurs quand nous en avons fait. Mais faut pas accepter tout et n'importe quoi. Si on continue à laisser l'histoire écrite par d'autres, aujourd'hui la soviétologie en France, ce n'est plus que de la propagande. Donc, c'est Annie Lacroix qui me le disait encore récemment. C'est assez évident. On peut le prouver par plus ne serait-ce que par exemple Suzanne Scoff, qui est la personne dont tout le monde était tributaire, mais qui n'a jamais été traduite. Mm-hmm.
Donc, ce travail, c'est un travail militant en fait. Le travail des éditions d'Elga, c'est un travail militant, mais un travail pas de supporter encore une fois, un travail d'études approfondies avec des spécialistes.
De recul théorique. Il faut penser le socialisme, parce que de toute façon, a priori, là, on commence à...
C'est ça ou la barbarie,
ouais,
hein.
Moi, voilà, c'est ça. C'est que dans ma jeunesse, c'était beaucoup moins clair, parce qu'on nous faisait le chantage en disant ça marche pas, et là, au contraire, on se commence à se rendre compte que c'est peut-être ça qui va nous sauver.
Oui, parce que c'est ce qui marche pas, là.
Ce que c'est que le socialisme. Oui, voilà.
Bon, mais, Aymeric Monville, donc, hein, je rappelle. Et on rappelle cet ouvrage qui vient de sortir aux éditions d'Elgar, qu'on peut commander chez son libraire, et qu'on peut aussi peut-être commander directement, en passant sur le site des éditions d'Elgar. Les divagations des anti-chinois en France, en réponse finalement à un rapport tout à fait officiel un rapport maccartiste, comme tu le disais tout à l'heure. On invite en tout cas nos auditeurs à se pencher sur toutes ces questions qu'on relaie régulièrement en diffusant très facilement les vidéos que les uns et les autres font. Tu parlais d'Annie Lacroix, c'est une grande habituée de notre antenne aussi. Merci Aymeric Monville.
Bravo à vous, merci pour tout, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Très loin d'ici, il existe une zone où on garde en secret l'après-midi des faunes, là où les souvenirs à jamais emmurés ont des histoires d'amour toujours inachevées et jamais abouties comme sont les conquêtes. Les chevaux ruisselants juste avant la défaite, quand le seigneur de guerre reconnaissant les siens sous les masques de fer se penche et ne dit rien. Et chaque nuit les villes brûlent, ma compagne de feu. As-tu connu ces hommes, ces hommes du refus au loin des compromis, que l'argent corrompu n'a jamais assagi, ceux qui tiennent leur clan en dehors de la norme. Chien de guerre qui fermait les portes des cellules, il reste pour les loups ce battement de cœur, ce tempo de survie venu des profondeurs, cette rage de vivre rivée sous la férule. Et chaque nuit les villes brûlent, thank you.
chien de garde en passant. Surveillez bien votre os.
La nuit infinie.